Bonjour à tous, bienvenue dans l'Esprit public, une heure pour analyser les temps forts de la semaine politique et géopolitique avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, le chercheur en sciences politiques Manuel Cervera-Marzal, les journalistes Christine Ockrent et Gérard Courtois et le directeur de l'Institut français des relations internationales Thomas Gomard. Au sommaire de ce dimanche 3 novembre, attaque de la mosquée de Bayonne, faits divers, faits français ou faits d'époque. Et puis nous prendrons ensemble la direction du Liban, autopsie d'une colère. Claude Cinquet, l'auteur des tirs ayant blessé deux personnes lundi 28 octobre devant la mosquée de Bayonne, a reconnu les faits lors de son interpellation. Âgé de 84 ans, Claude Cinquet avait été candidat pour le Front National aux élections départementales de 2015 dans les Landes. Et il y a quelques années, l'octogénaire avait partagé sur Facebook son admiration pour le polémiste Éric Zemmour. Les experts ont estimé que Claude Cinquet, au moment des faits, avait une altération partielle du discernement, mais restait pénalement responsable. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, mais la justice ne considère pas à ce stade que les faits soient de nature terroriste. Un fait divers donc, mais aussi un fait d'époque, rappelant tous ces projets d'attentats xénophobes commis par des individus d'extrême droite souvent très sains d'esprit dans de nombreux pays, en Nouvelle-Zélande notamment avec l'attentat contre deux mosquées de Christchurch en mars dernier, 50 morts. L'attentat xénophobe, un fait d'époque, mais aussi un fait spécifiquement français, s'inscrivant dans une séquence hexagonale particulièrement nauséabonde, démarrant avec l'attentat de la préfecture de police de Paris et la mission politique délicate consistant à lutter contre une menace réelle sans verser dans la stigmatisation des musulmans, puis le débat déclenché par un élu RN autour d'une mère de famille voilée, sans oublier bien sûr la polémique Zemmour. Fait divers, fait d'époque, fait français, au-delà des mots, un fléau, la xénophobie décomplexée, libérée et la notion même de communauté nationale, bien mal en point.
L'attentat de Bayonne est une alerte fondatrice. Il est le résultat évident d'une écœurante et odieuse séquence de stigmatisation des musulmans.
Vous avez raison, monsieur le président Mélenchon. Nous devons faire très attention à ce que nous tous ici, responsables élus ou responsables politiques, nous disons. Dans une République sûre de ses principes, nous pourrions tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale.
Voilà pour cet extrait de la séance de questions au gouvernement mardi dernier, le Premier ministre Édouard Philippe répondant à une question du député de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Gérard Courtois, on a vraiment plus que jamais ces derniers jours le sentiment d'un pays, d'une France totalement coupée en deux, entre ceux d'un côté qui dénoncent le dénislamisme, pour reprendre l'expression de cet éditorialiste du Figaro, et ceux qui dénoncent l'islamophobie française. Est-ce qu'il y a encore un espace pour l'unité nationale sur ces deux sujets, pour reprendre l'expression et de Jean-Luc Mélenchon et du Premier ministre ?
Parce qu'il y a un mot qui m'a frappé, c'est le mot qu'a employé le père de Lorme, le curé des Minguettes, qui est très, très impliqué dans le dialogue entre les religions et notamment avec l'islam, pour qualifier le climat actuel. Il a parlé d'islamo-folie. Je trouve ça très juste. Alors, vous avez rappelé, Émilie, cette espèce de conjonction de circonstances, de polarisation ahurissante du débat public sur la question de l'islam en général. On va détailler. Juste pour mémoire, depuis 15 jours, il y a un débat budgétaire, on a l'impression qu'il n'a pas lieu. Il n'est pas tout à fait anodin. Il a été complètement éclipsé par l'ensemble des polémiques, des controverses, etc. Pourquoi le cocktail est explosif? Pour plein de raisons. Parce que l'opinion est inquiète. L'opinion non musulmane, dont on sait à travers toutes les enquêtes qu'elle est au moins dubitative sur la compatibilité de l'islam avec les valeurs de la République. L'inquiétude de la communauté musulmane qui se sent effectivement montrée du doigt, stigmatisée en permanence. L'autre cause de cette irritation ou de cette irritabilité, disons, le flou ou le caractère un peu insaisissable du discours du président de la République. Les divisions de la majorité, on l'a vu, entre la position du ministre de l'Éducation nationale et de la porte-parole du gouvernement, M. Blanquer et Sibendiaye. également parce que la droite souffle sur les braises, et bien entendu parce que le Front National a fait de cette espèce d'amalgame immigration égale islam radical, égale terrorisme, son fonds de commerce depuis fort longtemps. Mais, à mon sens, il y a une cause, si le trouble est aussi permanent, récurrent, parce que ça fait 30 ans que la question revient, si le trouble est aussi profond, et je pense que c'est une des causes du trouble de Macron, c'est parce que y a vraiment quelque chose dans le... Comment dire ? Ça renvoie à la réalité, à une réalité historique beaucoup plus forte. La République s'est construite non pas contre les religions en elles-mêmes, mais contre l'emprise religieuse sur la vie de la société. Dans ses aspects les plus intimes, la vie, la mort, la famille, l'éducation, etc. Elle s'est construite pour s'émanciper, c'est la loi de 1905, de cette emprise. Et elle a réussi. Elle a d'autant plus réussi que depuis 50 ans, on assiste à une déchristianisation massive, accélérée de la société française. Et donc au fond, en dehors de quelques combats d'arrière-garde, l'école libre publique contre l'école publique en 84, le mariage pour tous en 2013, en dehors de ces quelques résurgences, on a au fond une disparition. La société française s'est habituée à ne plus avoir à se poser la question de la religion. Voilà, c'est aussi simple que ça, me semble-t-il. Et l'islam la lui repose. Parce que l'islam est une religion active, attractive, dont les fidèles assument et affichent leur foi. Et pour la première fois depuis des décennies, la société française et les responsables politiques sont confrontés à quelque chose qu'ils avaient totalement perdu l'habitude de penser.
Alors Manuel Savard-Marzal, à la fois sur ce rappel historique de Gérard Courtois et sur quelque chose que vous avez dit, Gérard, à savoir que participait de ce malaise que vous appelez le caractère insaisissable de la position d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là. Or, il y a eu aussi cette semaine, que je n'ai pas rappelé dans mon introduction, tout un débat autour de cet entretien que le président a accordé à l'hebdomadaire ultra-conservateur Valeurs Actuelles, 12 pages, sans aucune annonce, mais où il parle, voit l'identité, islam, identité nationale. Manuel Savard-Marzal.
Oui, alors moi, effectivement, je trouve que le terme du père de l'orme sur l'islamophobie, voilà, est très très bien choisi. On sent en ce moment particulièrement une obsession française sur la question de l'islam, mais j'aimerais introduire une nuance parce qu'il me semble que cette obsession, c'est en grande partie une fabrication des élites et des élites politiques et médiatiques. Des élites politiques, pourquoi ? Parce que tout simplement, elles espèrent pour une bonne partie d'entre elles rentabiliser électoralement en surfant sur ce terme-là, et des élites médiatiques, parce qu'on l'a vu avec le cas CNews et Éric Zemmour, elles espèrent elles aussi surfer sur la peur autour de l'islam en faisant grimper les audiences. Mais ce que je constate, c'est que, et j'en suis fort heureux, les enquêtes sociologiques les plus sérieuses sur l'évolution de l'opinion publique française le montrent. On peut se référer par exemple aux travaux de Donna Meyer ou du Sevipov sur est-ce que ces idées, finalement, de peur, de haine, de racisme aussi bien antisémite qu'islamophobie, et qui en grande partie viennent d'en haut, hein, j'insiste, il me semble que vraiment le poisson commence par pourrir par la tête, est-ce que ces idées, elles infusent dans le corps de la société française ? Eh bien, en fait, pas tant que ça, pas tant que ça. Alors oui, il y a eu l'an dernier, c'est des choses qui sont difficiles à chiffrer, mais il y a eu 50% d'actes antisémites en plus. Oui, il y a eu 60% d'actes islamophobes en plus. Mais quand même,
ce ne sont pas des petits chiffres, quand même.
C'est pas des petits chiffres, mais il y a d'autres chiffres qui sont quand même plus rassurants. Tout ça est assez complexe. Et quand on regarde, depuis une vingtaine d'années, on teste, c'est les travaux de Nona Meyer notamment, on teste des propositions. Alors, on soumet aux Français, à 10 000 Français testent des propositions de nature antisémite ou islamophobe, et on se rend compte qu'en fait, ça progresse quasiment pas, ça reste stable. D'ailleurs, quand on regarde un peu les préoccupations premières des Français, ça reste le chômage, c'est désormais aussi l'environnement, et c'est pas les questions d'immigration ou d'islam ou d'insécurité.
Mais alors, comment expliquer la montée du Rassemblement National, du vote RN ?
Mais en fait, la montée du Rassemblement National, en chiffres, ça nous emmène vraiment sur des considérations de sociologie électorale assez compliquées, mais c'est un parti qui a monté surtout parce que par rapport à ça, il y a eu beaucoup d'abstention en fait qui a monté. Il faut prendre en compte les chiffres de l'abstention pour se rendre compte que la montée du Front National est réelle, mais elle est moins forte que ce qu'on avance parfois. Et donc voilà, vraiment, hein, j'insiste sur les préoccupations des Français qui restent quand même des préoccupations de base comme les inégalités et le climat. Et, alors même que parfois, on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, le président de la République, quand il ouvre le grand débat et qu'il adresse sa lettre aux Français, il essaye d'orienter le débat vers la question de l'identité nationale, de l'immigration, ce qui n'était pas du tout la préoccupation des Gilets jaunes, qui parlaient simplement de pouvoir d'achat et d'injustice fiscale. Et puisque je parle du président, quelques mots quand même sur cette interview édifiante qui a été accordée à ce magazine Valeurs Actuelles. La justification, l'élément de langage qui a été donné visiblement depuis l'Élysée ensuite au ministre, c'était de dire sur les plateaux... le président est allé parler à Valeurs Actuelles parce qu'il veut parler à tous les Français. Mais attendez, Valeurs Actuelles, c'est le 102e magazine le plus vendu en France. C'est-à-dire que il est moins vendu que le journal de Mickey ou que Maison et Travaux. Donc, si c'était vraiment ça la préoccupation, je pense que Éric Zemmour aurait fait... Éric Zemmour, vous voyez le lapsus
Emmanuel Macron.
Oui, parce qu'en fait... La stratégie pour les présidentielles de 2022, elle a déjà été mise en place. Il suffit d'ouvrir Le Monde, en fait, pour voir. C'est des sources anonymes autour du président, mais qui expliquent, oui, pour 2022, on va essayer de faire monter le FN pour se poser, évidemment, au dernier moment, comme barrage face au Front National. C'est un tête-à-tête, une valse qui arrange le président de la République et qui est mise en scène par lui en allant donner des entretiens à Valeurs Actuelles. C'est absolument pas un souci de parler à tous les Français.
Christine Krent, à la fois sur ce climat nauséabond que nous reconnaissons tous autour de cette table et sur la façon dont le président de la République, en effet, a choisi d'y répondre.
D'abord, en réaction au propos que Manuel vient de tenir, quel que soit le mérite absolu des enquêtes sociologiques, le problème en France, c'est le passage à l'acte. Donc, on peut dire, certes, finalement, en termes de
ça proportions pas,
macro, ça ne varie guère. Mais le passage à l'acte, oui. Et effectivement, 50% de plus d'actes antisémites et presque autant, 60% encore plus d'actes anti-musulmans révèlent des crispations, comme l'a très bien dit Gérard, qui tiennent au malaise de cette république que l'on invoque sans arrêt. Il y a une inflation autour de ce mot qui devient presque indigeste et qui est un espèce de paravent de plus en plus transparent d'une incapacité à dire ce qui continue de nous rassembler et qui reste fort heureusement majoritaire. Moi, je considère qu'il y a un drame français, c'est qu'il n'y a pas de voix musulmane. Alors, dès qu'on dit ça, on dit oui, il n'y a pas de voix émergente de la communauté musulmane. Alors on dit, ah là là, on peut pas parler de communauté. Certes, sinon que l'islam se caractérise précisément par la confusion absolue entre la population et ce qui tient lieu d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre une organisation sociale et politique et l'organisation religieuse. Et là, je trouve, et c'est suffisamment rare à mon avis pour être souligné, on peut citer le Royaume-Uni en exemple. Parce que certes, ils ont fait du communautarisme comme ils ont, eux, réglé depuis Cromwell leurs problèmes religieux bien avant nous. Ils ont fait du communautarisme un mode d'organisation sociale et politique. Mais il y a des voix de l'islam britannique qui s'expriment jusqu'à la Chambre des Lords. Puisqu'ils ont la bonne idée, mais enfin ils ont une reine, ça facilite les choses, que ne dirait-on pas de Macron s'il se mettait à anoblir un certain nombre de porte-parole de différentes fractions de l'opinion française. Vous avez à la Chambre des Lords des hommes, je crois pas qu'il y ait de femmes en l'occurrence s'agissant d'islam, il y en a s'agissant de la communauté d'origine indienne, mais qui exprime en fait les préoccupations, les obsessions de leur communauté. Et encore une fois, il n'y a pas du tout la même histoire. Le drame français, moi j'ai été très frappée par la déclaration du Conseil français du culte musulman. D'abord, c'est une déclaration qui n'a pas été émise par son président. Le président, qui s'appelle Ahmet Okras, est d'origine turque et il est... C'est un fait notoire, proche d'Erdogan et des frères musulmans. Donc, Les frères musulmans, c'est une tradition de l'islam politique qui est très très spécifique et qui d'ailleurs gagne en France une influence considérable. Lui, on ne l'a pas entendu. Qui s'est exprimé au nom de ce Conseil français du culte musulman dont on répète à l'envi qui n'est pas franchement représentatif? Le vice-président. Monsieur Pibèche, qui lui est d'origine marocaine. Et alors, cette déclaration est très ambiguë, notamment concernant le voile, parce que l'une des questions qui ne cesse de fouetter le débat, c'est évidemment cette question du voile. Alors, il y a, semble-t-il, parmi les gens savants, toutes sortes de polémiques pour savoir si oui ou non le Coran impose aux femmes le port du voile. Il semblerait que c'est absolument pas le cas. Mais enfin, c'est vrai aussi dans les religions chrétiennes où, en fait, c'est l'organisation sociale qui impose ensuite l'asservissement des femmes. Mais je trouve que la manière, et ça reste le problème central, dont on n'arrive pas en France à organiser un islam de France, El Karoui avait fait des propositions très intéressantes dans un gros rapport à l'époque.
El Karoui, chercheur,
un gros rapport pour l'Institut Montaigne, où voilà, il proposait un plan qui consistait à la fois à financer cet islam de France par une contribution des musulmans français et sortir de cette suggestion, comme toujours, aux pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, pour ne pas parler de l'Arabie Saoudite et pour ne pas parler de la Turquie, dont l'influence encore une fois grande.
Alors justement, j'allais y venir et je voulais vous interroger à ce sujet, Thomas Gomard, puisque non seulement nous avons ce climat nauséabond en France et nous avons notamment, je ne l'ai pas mentionné encore, une proposition de loi examinée par le Sénat français cette semaine visant à interdire le port de signes religieux ostensibles aux parents accompagnant des sorties scolaires. Et on a eu une réaction qui venait de la Turquie, ce qui montre bien qu'il y a aussi désormais une mondialisation des opinions et des polémiques sur tous ces sujets. Ce jeudi, la Turquie a protesté contre cette proposition de loi française examinée au Sénat, ce qui paraît insensé puisque par ailleurs, elle a peu de chances d'aboutir puisqu'il faut ensuite une majorité, un examen à l'Assemblée nationale. Et on sait bien qu'en effet, aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan se pose comme le défenseur des droits des musulmans dans le monde. Ça va dans le sens de ce que dit Christine, on n'a pas de représentation en France et on a en revanche un dirigeant turc qui rentre dans ce débat français. Ça, c'est nouveau aussi.
C'est déjà une manière de faire le lien entre nos deux sujets du jour. C'est que le communautarisme, c'est la porte ouverte aux influences étrangères. Voilà. Et c'est très visible dans le cas des musulmans en France. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Après, si je repars de votre énumération fait divers, certainement pas. Ce qui s'est passé est effectivement gravissime. Et je pense qu'il faut exprimer toute la compassion et la solidarité avec les blessés et leurs familles. Fait français, très certainement, je vais y revenir. Et fait global, pour les raisons que vous indiquez. Alors pourquoi c'est pas un fait divers? On a eu un débat, je trouve, intéressant sur est-ce que c'est une attaque ou un attentat. Ce qui permet de rappeler que dans une démocratie comme la nôtre, celui qui qualifie l'acte de terroriste, c'est le pouvoir judiciaire. Oui. C'est pas le pouvoir politique. Et je pense que c'est un rappel utile parce qu'il y a eu un certain nombre de voix qui se sont émues des propos tenus ou non tenus par notamment le ministre de l'Intérieur.
Alors on fait peut-être juste petit point de précision. Il y avait en effet le reproche qu'on n'utilise pas le mot attentat ou qu'on ne parle pas de terrorisme parce que cela avait l'air peut-être de minimiser ce qui s'était passé. En réalité, il y a en effet une explication juridique que dès lors qu'on dit terroriste, ça veut dire qu'on saisit le parquet national antiterroriste et que là, en l'occurrence, il n'a pas été saisi puisque l'auteur des faits est un homme de 84 ans qui a manifestement agit seul.
Et on est dans un cas de figure très différent de ce qui avait été démantelé en juin dernier, où 15 personnes, qui s'appelait Action des Forces Opérationnelles, qui était un réseau d'ultra-droite préparant des attentats, a été démantelé. Donc l'ultra-droite fait partie des quatre grandes menaces terroristes aujourd'hui qui nous concernent. D'abord le terrorisme islamiste sunnite, ensuite le terrorisme d'État qui n'a pas disparu, CF les agissements de l'Iran, le terrorisme régional et le terrorisme d'ultra-droite. En ce sens, j'exprime un désaccord assez fort sur l'idée de dire qu'on est dans une sorte de construction par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a quand même subi des attaques répétées sur notre territoire, 250 morts, et je pense que ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris au mois de septembre est gravissime sur ce que cela veut dire du danger que nous avons essayé de traiter. Le deuxième point, c'est le fait français. Bon, vous avez retracé le parcours du criminel. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est la demande qu'il a faite d'avoir la nationalité marocaine. Parce qu'il a visiblement vécu très longtemps au Maroc. Il voulait avoir une double nationalité, ce qui a été refusé. Ensuite, il a eu cet engagement politique auprès du Front National. Ce qui permet là de faire un point, je dirais, c'est au fond l'expression de ce qu'on pourrait appeler peut-être improprement, mais la droite OAS, qui est en train de revenir. Et ce qui permet de faire un point sur la manière dont Rassemblement National est très embarrassé par cette histoire, parce que le Rassemblement National essaie au fond de capter le gaullisme. En réalité, son origine, c'est l'OAS. Voilà. Et c'est ça qui est en train de réapparaître, d'une certaine manière, avec ensuite les propagandistes qu'on lui connaît. Mais je pense que ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est de se rappeler que la Ve République, la fondation de la Ve République, c'est la guerre d'Algérie. Voilà. Et que nous sommes dans cette sorte de jeu historique qui est en train de rejouer de manière, à mon avis, très dangereuse et effectivement qui oblige à repenser nos relations, est-ce possible, je ne sais pas, mais avec les pays du Maghreb et le Maroc et l'Algérie en particulier. Moi, j'ai été frappé par l'interview du président de la République qui parle de sécession, ce qui est quand même un terme extrêmement fort. Et qui, à mon avis, effectivement, ne contribue pas à l'apaisement que tout le monde appelle de ses voeux. Troisième point, c'est le fait d'époque. Gérard Courtois l'a rappelé, on est dans une déchristianisation accélérée et dans une inversion de la courbe de ferveur. C'est-à-dire que dans le même temps, on est dans une réislamisation très forte. Christine mentionnait la mouvance frériste qui est extrêmement active et qu'il faut absolument pas négliger. C'est-à-dire que là où on a un point d'analyse critique, c'est que le frérisme mise sur le long terme et mise sur des formes de conversion sur le travail du temps. Et c'est un travail qui passe par différentes étapes, le voile en étant une, et ce n'est pas qu'une construction sociale, c'est aussi une réalité, cela se distinguant du djihadisme. Un djihadisme qui, dans ses deux formes les plus fortes, Al-Qaïda et l'État islamique, a pour objectif précisément, voire l'appel à la révolution islamiste de 2005, de provoquer la guerre civile en Europe et en particulier en France, et en particulier à cause de la loi sur le voile de 2004. Et là, je pense qu'il faut lire effectivement des études sociologiques, mais aussi la production de Daesh, d'Abik, ou les différents magazines de Daesh qui expliquent ça très bien. Le dernier point, c'est que ce qui est cherché par le djihadisme, et donc je ne fais pas là du tout l'amalgame, si vous voulez, mais il y a des liens. Et il faut évidemment étudier toute cette gradation et avoir des idées très claires sur cette gradation. Ce qui est cherché, c'est la surréaction. Voilà. Et ça, c'est ce qui est peut-être en train d'être réussi. C'est qu'effectivement, nous sommes dans un climat de surréaction, de surenchère médiatique, de surenchère politique, alors même qu'il faut essayer, à mon avis, de rester calme.
Sur cette surenchère, Manuel Cervera-Marzal.
Oui, alors il y a plusieurs points. Bon, peut-être juste très rapidement, parce que c'est vrai que c'est un des sujets de fond du débat, la question de savoir si c'est une construction ou pas, enfin l'islamisation de la France dont vous parlez à l'instant. Moi, je vais donner juste un seul chiffre pour étayer ma thèse, qui est que c'est quand même en grande partie une fabrication médiatique et des élites. C'est que quand vous demandez aujourd'hui, quand vous faites un sondage, vous demandez aux Français, d'après vous, quelle proportion de la population française est musulmane. La réponse moyenne donnée par les gens, c'est 30%. Ils pensent que 30% des Français sont musulmans. La réalité, c'est quoi? C'est que 7% seulement des Français sont musulmans. Donc là, on voit bien la dimension fantasmatique sur ce point.
Alors, juste sur ce Manuel, point,
si vous permettez,
Thomas
Gomard. Je prends tout à fait votre chiffre, je vous en donne à mon tour. Quand vous demandez aux musulmans, la proportion de musulmans qui mettent la charia avant la République, on est à 25-27%.
Oui, une enquête de l'Institut Montaigne dont on pourrait débattre des modalités et des questions qui est tout à fait critiquable, mais je renvoie, il y a beaucoup de déconstruction de cette enquête.
Non, mais c'est pas uniquement l'Institut Montaigne, c'est aussi un sondage de l'IFOP.
Oui, sur d'autres termes qui ont été utilisés, qui sont aussi au cœur du débat, celui de communautarisme que vous avez employé tous les deux, Christine et Thomas. Le principal communautarisme quand même aujourd'hui en France, et pourtant celui dont on ne parle jamais, c'est le communautarisme blanc. Excusez-moi, mais les assemblées générales du CAC 40, les directions des ministères, les conférences de rédaction des principaux journaux français.
Est-ce que vous faites la différence entre la violence politique, entre le fait de faire de la violence politique?
Donc, je vais essayer de finir sur cette notion.
Je pense qu'on peut pas comparer ce genre de choses.
Je vais essayer de finir sur cette notion de communautarisme. Voilà, je pense qu'il y a un communautarisme dont on parle jamais, c'est le communautarisme blanc. J'insisterai par ailleurs sur un autre point important concernant cette notion, c'est que vous avez un communautarisme qui a été choisi, c'est précisément celui-là, le communautarisme communautarisme des dominants qui se regroupent entre eux par confort, parce qu'effectivement, ça se comprend. Et vous avez un communautarisme qui est subi. Le communautarisme musulman que vous évoquiez tous les deux, c'est parce que l'immigration postcoloniale, elle a été parquée, ségrégée géographiquement et socialement dans des quartiers, dans des départements.
La définition même de l'islam.
Dans lesquels il y a du chômage de masse, dans lesquels les services publics, les écoles, les tribunaux, les hôpitaux sont complètement désaffectés comme la Seine-Saint-Denis. Donc il faut faire attention aussi parce que le communautarisme des dominants qu'ils choisissent eux-mêmes, c'est pas le communautarisme des dominés qui leur a été imposé et qui peut ensuite se retourner.
Vous niez que l'islam repose précisément sur la confusion au sens chimique du terme entre l'individu, le groupe d'individus et son organisation sociale. C'est l'une des définitions même de l'islam.
Je ne suis pas islamologue, par contre, j'ai
mais
entendu...
Mais moi non plus, mais enfin, ça fait partie de la culture générale.
J'avoue mes incompétences et mes limites en termes de culture générale. Par contre, j'ai entendu dans vos propos, Christine, et je les ai entendus dans la bouche de beaucoup de responsables politiques...
Christine n'est pas responsable politique.
Non, je sais, mais je... En tout cas, j'ai entendu beaucoup de personnes appeler les musulmans de France à se désolidariser des actes terroristes. Je n'ai jamais entendu quand il y avait des attentats commis par des suprémacistes blancs ou des fous furieux d'extrême droite comme celui de Bayonne. Je n'ai jamais entendu aucun responsable politique ou médiatique appeler les catholiques à se désolidariser de telles personnes.
Donc Parce qu'ils le font spontanément.
Ou alors parce qu'il y a un présupposé implicite qui n'est jamais dit, mais qui serait que tout musulman serait par défaut complice du terrorisme, présupposé qu'il ne s'applique pas aux catholiques ni aux blancs.
Gérard Courtois.
Je voudrais revenir sur 2-3 points qu'on vient d'évoquer. Sur la progression et le dynamisme de l'islam en France, les chiffres sur la perception, c'est une chose. La réalité du nombre, de la multiplication par 2 en 20 ans du nombre de salles de prière ou de lieux de culte musulmans, c'est une réalité objective. On est passé de 1200 à 2500 en 20 ans. Donc il y a effectivement une dynamique musulmane, notamment chez les jeunes, ce qui n'est évidemment plus le cas chez les catholiques. C'est le premier point. Deuxième chose, ce que disait Christine sur l'organisation de l'islam. Je crois que c'est un problème fondamental parce que ça fait 30 ans que les responsables politiques. Ça a commencé avec Chevènement, continue avec Sarkozy, ensuite, et aujourd'hui avec Macron, sont dans une espèce de rêve, j'allais dire de fantasme, de rêve, d'organiser avec l'islam un système concordataire.
Oui, mais peut-être faut-il en effet parler de fantasme, parce que concrètement, qu'est-ce que cela signifierait d'organiser l'islam de France ?
Mais ça signifierait de trouver les voies d'un concordat, d'un système concordataire. C'est-à-dire, mais pour ça, il faut avoir un interlocuteur. Un interlocuteur qui représente légitimement, avec l'autorité suffisante, c'est le cas avec l'Église catholique, c'est le cas avec...
Mais ça n'a pas été organisé par l'État, c'est ça que je veux dire.
Le concordat, il a été passé entre l'État et...
Est-ce qu'on peut imaginer là un processus où l'État, en effet, se saisirait de cette organisation-là?
C'est ce que Emmanuel Macron a esquissé il y a 18 mois, et à quoi, à l'évidence, devant la difficulté de l'exercice, il a renoncé. Il a évoqué l'hypothèse d'un concordat il y a 18 mois. Il a même évoqué à cette occasion l'éventualité que ça conduise à retoucher d'une manière ou d'une autre la loi de 1905. Et ça a provoqué une explosion de lamentation des gardiens du temple en tout genre. Et il a reculé. Enfin, en tout cas, il a remis cette idée dans un tiroir. Donc, il y a une vraie difficulté, effectivement, à trouver des interlocuteurs permettant, et on le voit bien à travers la réunion qui a eu lieu il y a quelques jours à l'Élysée avec les représentants du CFCM, et les suites que vous avez évoquées, y compris l'intervention turque derrière. Le président en est réduit à demander instamment à une autorité qui n'en a pas de faire en sorte de lutter contre le communautarisme. Je voudrais ajouter encore un point, parce que qui me paraît important, et en réaction ou en rebond de ce que Christine disait sur le passage à l'acte. Je crois que c'est essentiel. L'affaire de Bayonne, dans l'affaire, attaque, attentat, hein, bon. ne va pas rentrer dans ce débat sémantique, mais il est instructif. Mais dans ces deux affaires, comme dans l'affaire à Brest au mois de juin, où un imam et un fidèle ont été blessés par balle par un personnage qui manifestement était déséquilibré. Dans ces trois cas, le Bayonne s'est vengé l'attentat de Notre-Dame, commis par des musulmans, disait l'auteur de l'affaire de Bayonne. Dans l'affaire de la préfecture, c'est des voix qui, la nuit précédente, d'après l'épouse de l'auteur de cette attaque, auraient donné injonction de passer à l'acte. Mais le passage à l'acte, il vient pas de nulle part. Alors, c'est effectivement, il y a une part de folie qui échappe à la rationalité, qui désarme la rationalité. Mais, je veux dire, il y a un climat de vindicte, d'insultes, de stigmatisation, de dénonciation, dans lequel, quoi qu'elle en dise, Madame Le Pen et son parti ont un rôle essentiel. Ils sont pas les seuls, mais ils sont les plus actifs et les plus virulents sur ce terrain-là. Et ce climat, de la même manière que des prêches extrêmement violents qui peuvent avoir lieu dans des lieux de prière ou dans des mosquées, peuvent pousser à l'acte. Voilà, c'est ce climat favorise dans des esprits, appelons-les déséquilibrés, le passage à l'acte. Manuel et ça, Saver, c'est grave.
Oui. Manuel Saverne-Manzal.
Oui, je suis entièrement d'accord sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que pour les juristes, c'est important de faire la part des choses entre ce qui relève de la folie, de déséquilibre psychiatrique et ce qui relève du terrorisme, parce que ça a des conséquences extrêmement importantes. Si c'est du terrorisme, on va saisir le parquet antiterroriste et là on rentre dans une procédure spéciale. Et puis par ailleurs, si c'est du terrorisme, il y a la responsabilité pénale tout simplement de l'auteur des actes qui est engagé, alors que si il est déclaré fou, en état de démence, inconscient, du coup, il peut s'en suivre une irresponsabilité.
Là, en l'occurrence, sur l'affaire de Bayonne, il sera pénalement responsable, même si la nomination terroriste n'a pas été retenue.
Oui, parce qu'en fait, ils considèrent que son jugement était partiellement altéré, je crois. Donc, du coup, voilà, ça va pas assez loin. En tout cas, j'ai entendu le Front National entonner cette rhétorique du pas d'amalgame. Voilà, c'est justement mettre l'accent sur la folie de cet individu pour se dédouaner entièrement pour dédouaner entièrement la responsabilité idéologique du Front National. Mais quand on remonte un petit peu dans l'histoire, c'est intéressant parce qu'on remarque que depuis 1985, avec une régularité assez étonnante, environ tous les 5 ans, vous avez un membre ou un ancien membre du Front National qui se saisit d'une arme à feu et qui tire sur une personne musulmane ou même parfois supposée musulmane par celui qui est en train de tirer. Donc il y a une récurrence de ces actes-là en France qui, à mon avis, viennent étayer le fait qu'il y a un lien quand même organique entre le passage à l'acte et le bain idéologique dans lequel nous sommes.
Merci, nous allons clôturer cette première partie. Thomas Gomard, ne vous inquiétez pas, vous allez parler particulièrement sur la seconde. On va maintenant partir pour le Liban. Après les printemps arabes, voici peut-être l'automne libanais et beaucoup d'interrogations sur l'issue possible d'un tel mouvement. Liban, crise de régime et autopsie d'une colère.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Après 13 jours de manifestations dans le pays, le Premier ministre libanais a donc annoncé mardi dernier qu'il allait quitter le pouvoir. Tout est parti de l'annonce d'une taxe sur les appels téléphoniques par l'application WhatsApp. Immédiatement, les gens par milliers sont descendus dans la rue. La taxe WhatsApp est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des récriminations des Libanais. Ces dernières semaines, la tension montait au Liban sur fond d'aggravation de la situation économique et d'une corruption systémique. Tandis que la mobilisation s'essouffle à Beyrouth, au nord, à Tripoli, des milliers de manifestants ont convergé hier soir, venus des quatre coins du Liban, pour une mobilisation sous le signe de l'Union. La démission, peut-être provisoire par ailleurs, de Saad Hariri ne résout pas tout, car c'est bien l'ensemble de la classe politique libanaise qui est visée par le mouvement. Le slogan phare, « Tous, cela veut dire tous », traduit bien la volonté commune de renouveler en bloc un monde politique accusé d'incompétence et de corruption. Les manifestants réclament la formation d'un gouvernement où les ministres seraient choisis pour leurs compétences et non parce qu'ils appartiennent à telle ou telle communauté ou clan. Ils réclament aussi le départ du président Michel Aoun et la dissolution du Parlement. Par ailleurs, pour la première fois, des foules ont défilé dans les fiefs du Hezbollah pro-iranien pour s'en prendre à l'organisation chiite et à son leader religieux, Hassan Nasrallah. Pour bien comprendre cette colère des manifestants libanais, il faut bien sûr rappeler que la classe politique est restée quasiment inchangée depuis la guerre civile qui s'est déroulée entre 1975 et 1990, le système institutionnel reposant sur un savant équilibre entre les différentes confessions du pays, ce qui favorise le maintien au pouvoir des mêmes dirigeants. Alors le Liban, crise de régime, colère venue de loin, soif de changement, mais le Liban a-t-il les moyens de ses rêves? Avec ses identités meurtrières, comme l'écrit très bien l'écrivain libanais Amin Malouf, avec sa géographie qui le place au cœur de tous les conflits de la région et notamment un tiers de sa population composée de réfugiés syriens, avec ses influences étrangères multiples, à commencer par la guerre sourde irano-saoudienne, le Liban a-t-il vraiment les moyens de se réinventer?
La seule chose qu'on veut, c'est un État de droit, un État qui ne soit pas corrompu comme un peu en Europe et un État où l'humanité puisse vivre dignement.
On attendait sa démission.
Je pense que c'était un bon pas, une étape de gagner dans les revendications que réclame une grande partie du peuple. Mais ça ne suffit pas.
La démission du gouvernement, ça ne veut pas dire la fin de nos problèmes. Qu'est-ce qui nous garantit que les mêmes ne vont pas revenir?
Je ne suis pas très optimiste. Vous pouvez voir plein de gens ici, en apparence très ouverts, mais on vient tous d'un environnement différent. On entend des choses terrifiantes, il y a beaucoup de menaces.
Voilà, extrait de ces manifestations qui se sont déroulées à Beyrouth la semaine précédente. Cette femme que l'on vient d'entendre à l'instant, Thomas Gomard, ne se dit pas très optimiste. Est-ce que ce printemps libanais qui se déroule en automne peut avoir, selon vous, une issue heureuse?
Il faut le souhaiter, évidemment. On va voir avec l'attitude du Hezbollah en particulier, qui semble avoir sifflé la fin de la partie. Si on en croit les dernières déclarations de Nasrallah. Je pense que ce qui se passe au Liban est effectivement extrêmement important et va me permettre aussi peut-être de prolonger la discussion du point précédent, notamment sur cette idée de communautarisme. Moi, je pense qu'on est au Liban face à un phénomène double qui est à la fois une crise sociale qui pourrait être analysée à travers le terme de dégagisme et qui porte en particulier sur la contestation de la corruption. Qui passe, à mon avis aussi, là comme ailleurs, par les technologies de l'information et de la communication, qui sont des outils d'empowerment, très bons pour contester, très bons pour se mobiliser latéralement, et absolument très mauvais pour inventer de nouvelles formes politiques. C'est-à-dire qu'on va être effectivement dans une logique, là aussi, probablement, de déconstruction très accélérée, mais on ne voit pas ce qui peut émerger de cela. Et ce qui va émerger probablement sont les forces organisées type Hezbollah. Bon. Et c'est en ce sens que l'inquiétude de la personne que vous nous entendez est intéressante. Il y a une formule utilisée par Dominique Aidé dans une tribune du Monde que je trouve très éloquente de ce point de vue-là, cette notion de solitaire, solidaire. Au fond, c'est probablement ça qu'il faut analyser, c'est que toutes ces révolutions, ces printemps, etc., passent effectivement par les technologies de l'information et de la communication, mais qui, encore une fois, ne permettent pas de générer des formes politiques efficaces. Le deuxième point, à mon avis, qu'il faut souligner, c'est la demande d'État. Mais la demande d'un État de neutralité et d'un État qui est là pour assurer la sécurité. Et c'est là que j'ai un désaccord assez fondamental avec Manuel, c'est que je pense qu'on ne peut pas du tout voir ce qui est en train de se passer en termes, je reviendrai au terrorisme dans le cas du Liban, comme des constructions. C'est-à-dire qu'il y a une revendication d'État qui est là pour assurer la sécurité. Et ce n'est pas uniquement un jeu de dominant-dominé, ce n'est pas du communautarisme blanc, du communautarisme musulman. Les gens ont besoin d'État parce que c'est l'État qui garantit la sécurité, bon, à la fois intérieure et extérieure. Et ce n'est évidemment pas le cas au Liban. Ça me conduit au deuxième point, où on est face à un retour des questions stratégiques de manière très aiguë. Pourquoi cette situation est si difficile au Liban? C'est qu'on a une économie qui s'est effondrée à cause de la guerre en Syrie, et on a un effet de réplique, au fond, de la guerre de Syrie, qui joue sur le Liban, qui a accueilli à peu près 1 million de réfugiés.
1,5 million, c'est-à-dire un tiers de sa population aujourd'hui.
Ce qui est énorme, effectivement, à la taille du pays, et ce qui fait rejouer les frictions confessionnelles de manière extrêmement forte. Donc, à la fois, il y a dans cette manifestation une sorte d'appel à une identité libanaise qui dépasserait les confessions. Le fait que dans le sud du Liban, il y ait eu des manifestants contre le Hezbollah est un élément extrêmement important. Et en même temps, on le sait, c'est que cette organisation confessionnelle soumet chacun à sa confession pour se marier. Il n'y a pas de mariage civil, il y a d'abord un mariage dans sa confession. Ce qui fait que le système est en même temps très difficile à faire évoluer.
Ce que Amin Maalouf appelle ses identités meurtries, Christine Ockrent, c'est vrai qu'il a été très tentant pour plein de journalistes cette semaine d'établir des parallélismes entre ce qui se passe au Liban, ce qui se passe au Chili, ce qui se passe à Hong Kong. Il y a en tout cas un vrai parallélisme à établir qui, lui, est justifié et judicieux. C'est peut-être ce qui est en train de se passer, certes au Liban, mais au même moment en Irak.
Oui, mais alors je ne veux surtout pas dire du mal des journalistes, et pour cause. Mais c'est une vue de l'esprit. Je veux dire, chaque situation a des facteurs historiques, culturels, géopolitiques, intrinsèques, même s'il y a évidemment, entre le Liban et l'Irak, plus de similarités. Enfin, franchement, ça me semble élémentaire qu'entre le Liban et le Chili.
Alors,
l'on s'en tient au Liban. Et là aussi, il y a l'effet reflet avec l'Irak. C'est que l'Iran joue un rôle qui est celui que jouait en fait l'Union soviétique en son temps, c'est-à-dire d'une puissance impériale, tout en ayant elle-même un système faible, ou en tout cas affaibli. Toutes sortes de raisons qui vont depuis les sanctions économiques jusqu'à une relative désagrégation du tissu social. Mais s'agissant du Liban, et je crois que Thomas a très justement mis le point là-dessus, il y a à la fois un problème de connexion, c'est l'attaque sur WhatsApp qui a déclenché le tout. Il y a un problème de décrochage de l'idée que les Libanais se font d'eux-mêmes dans une société dont on méconnaît les inégalités, parce que nous aussi, et Amin Maalouf l'a admirablement écrit dans son dernier livre, nous sommes victimes de ce mirage levantin où on s'imagine que voilà les délices de ce Moyen-Orient qui nous a toujours paru plus simple que le Moyen-Orient profond, c'est un miroir aux illusions. Je veux dire, il y a un tiers des Libanais qui vit en dessous du seuil de pauvreté, avec des inégalités régionales très fortes. Et il y a aussi le phénomène de la diaspora, que l'on méconnaît. Et la diaspora, c'est un système de survie. C'est-à-dire qu'à un moment où l'économie libanaise, qui est totalement improductive, financiarisée jusqu'au bout, s'écroule, qu'est-ce qui fait vivre une partie des Libanais? C'est
l'argent
l'immigration.
Par les Libanais,
qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas d'élite de rechange? Et on va voir ce que va donner cet appel à des technocrates. C'est qu'ils sont tous ailleurs. Les jeunes Libanais, la plupart du temps, n'ont pas d'autre solution que de chercher un avenir ailleurs. Et là, il me semble qu'il faut en revenir à ce système confessionnel. Quand le Grand Liban a été créé par la puissance coloniale française, donc on est en 1920 pour aller vite, les Français, fidèles à leur tradition, disent « Ah, il faut une constitution basée sur les partis politiques ». Et là-dessus, les Libanais disent « Mais non, nous n'avons pas de partis politiques, nous avons des confessions ». Et donc, ils établissent un système qui a été mis à mal à plusieurs reprises, parce que l'histoire du Liban, là aussi, illusion levantine, c'est une histoire sanglante. Et il a fallu 2 ans de négociations après la guerre civile qui se termine en 90, les accords de Taïef, conclus en Arabie Saoudite, ce qui n'est d'ailleurs pas un hasard, pour que les différentes confessions, c'est-à-dire des clans, c'est-à-dire aussi des clientèles, se mettent d'accord pour que le président soit chrétien maronite, le président du Parlement Nabi Berri
un chiite.
Et le chef du gouvernement un sunnite. Donc l'idée que Saad Hariri, en fait, a été, j'ose pas dire pour une fois, mais assez habile, c'est-à-dire qu'il a mis le Hezbollah au pied du mur, parce qu'il a été, lui, en quelque sorte l'otage de l'alliance qui nous paraît vue de loin contre nature, entre le chrétien Aoun et le Hezbollah de Nasrallah. Le Hezbollah qui défend le système actuel parce qu'il est partie prenante au gouvernement, ils ont même accru leur participation parce qu'ils ont fait mieux aux dernières élections législatives que les sunnites. Donc on est dans un cas de figure où l'Iran, pour la première fois, et là aussi ressemblance avec l'Irak, l'Iran a exprimé sa préoccupation et a insisté sur le fait que surtout on préserve le système politique libanais. Donc il y a un concentré, me semble-t-il, de facteurs qui font du Liban un bouillon de culture totalement spécifique, différent de l'Irak dans ce sens-là, mais qui est extraordinairement préoccupant, d'autant que s'y ajoute une tradition complotiste que l'on trouve dans tous les rivages de Méditerranée, où c'est toujours les autres, c'est toujours les grandes puissances ou les moyennes puissances. Là, on ne parle plus de la France, semble-t-il, à Beyrouth, ce qui n'est pas bon signe pour nous. Mais bien évidemment, et là, à juste titre, l'Iran, oui, et puis que va faire Trump, comme si quiconque pouvait prédire ce qu'allait faire Trump. Mais la situation au Liban me paraît extrêmement grave.
Manuel Cervera-Marzal, en effet, sur cette organisation, cette structuration de l'État libanais tellement spécifique que rappelait à l'instant Christine Ockrent, fondée sur des confessions davantage que sur des partis, c'est la question que je posais au départ. Est-ce que le Liban peut vraiment s'inventer, s'imaginer à la fois un autre destin, et ça commencerait par un autre système politique?
Oui, c'est ça. Alors c'est un élément qui revient beaucoup, y compris dans les paroles des manifestants, de voilà, mettre fin au confessionnalisme pour se doter d'un État véritablement laïque. Et je pense que c'est un élément essentiel qui explique pourquoi le peuple libanais se soulève aujourd'hui. Mais à mon avis, c'est pas le seul, parce que ce confessionnalisme, il date pas d'hier, il date même pas de 1989, il date en fait de la constitution même du Liban en 1926. Donc voilà, il y a ce facteur-là, mais il y a d'autres facteurs. Il y a un deuxième qu'on a mentionné, qui est la corruption. Évidemment que la corruption, je pense, en plus, elle est à des niveaux tellement endémiques là-bas que je pense que bien sûr elle joue. Mais je pourrais vous citer tout un tas d'autres pays extrêmement corrompus et où pourtant l'ordre social est maintenu de manière relativement stable. Pourquoi? Parce que quand les corrompus au pouvoir redistribuent, quand ça ruisselle un petit peu, on va dire, vers le bas de la société, bon an mal an, les populations tolèrent finalement cette corruption généralisée. Le problème, c'est que, et j'en viens du coup au troisième facteur, à mon avis, sur lequel il est important d'insister pour avoir une vue globale qui permette de comprendre ce soulèvement, c'est tout simplement la paupérisation de la société libanaise qui s'est vue administrer depuis la fin de la guerre civile des recettes classiques du néolibéralisme austéritaire. Je crois que j'ai pas besoin de les décrire, je peux juste donner leurs résultats, mais là aussi que tout le monde devine, qui sont que 30% aujourd'hui des Libanais vivent sous seuil de pauvreté, que vous avez 40% des jeunes qui sont au chômage. Et ça, effectivement, combiné au confessionnalisme et à la corruption, c'est quelque chose qui n'est plus supportable. Alors vers quoi est-ce qu'on va? Quelle issue possible? Parce que c'est ça aussi la question. Une révolution, c'est un saut dans l'inconnu. On s'arrache à nos identités préalables, des identités confessionnelles, des identités religieuses. Mais vers quoi est-ce qu'on va? Et moi, le risque là que je vois prendre, parce que c'est une des revendications des manifestants et parce que c'est celle dont s'est saisi justement Saad Hariri, visiblement Michel Aoun, le Hezbollah semble plus timide là-dessus, mais c'est la mise en place d'un gouvernement d'experts. Or, le risque avec un gouvernement d'experts, c'est que effectivement vous ayez de nouveaux.
Le Hezbollah, il est franchement défavorable.
Ouais, le Hezbollah est franchement défavorable. Mais le risque de ce gouvernement, c'est l'enjeu là des prochains jours de voir s'il va être mis en place. Mais c'est d'avoir effectivement de nouvelles figures au pouvoir pour une durée provisoire et peut-être même à plus long terme de nouveau tout simplement renouveler la classe politique. Mais si cette classe politique elle administre les mêmes remèdes, enfin que ceux que je viens de décrire. Eh bien, concrètement, les inégalités et la pauvreté au Liban, elles vont perdurer.
Alors, avant d'aborder cette question des choix stratégiques économiques, Gérard Courtois, je reviens à ma question initiale sur le modèle politique. Est-ce qu'il peut se réinventer au Liban? Christine Ockrent nous rappelait à l'instant, en effet, qu'il y a cette problématique, tout simplement, des élites qui n'existent plus, qui ne sont plus aujourd'hui au Liban. On dit même, d'ailleurs, ces dernières heures, ces derniers jours, que Saad Hariri, finalement, pourrait rempiler, ce qui ne serait pas réellement le signe d'un important renouvellement. D'ailleurs, il avait déjà démissionné une fois, Saad Hariri, pour finalement revenir au pouvoir. C'était en novembre 2017.
Mais ça, c'était
2017.
Sous la pression du prince héritier
de l'Arabie Saoudite. Pour faire pression sur l'Iran et le Hezbollah. Alors, Gérard Courtois, quelles sont les issues et les possibilités aujourd'hui? Y en a-t-il seulement?
Je vais pas prétendre être un expert de la marqueterie libanaise. En revanche, et je voudrais quand même, même si vous nous en avez plus ou moins dissuadé, élargir un tout petit peu la focale. On l'a fait en voyant les points de comparaison éventuels entre
le Liban et l'Irak.
Moi, j'y rajouterais quand même l'Algérie, puisque c'est la crise actuelle l'autre crise actuelle, en plus de la libanaise et en plus des émeutes irakiennes. Et alors, on a les mêmes.
Peut-être un petit point rapide sur la situation algérienne avec des élections.
Avec 9 mois de manifestations massives contre le régime, un responsable réel de actuel qui est le chef d'état-major qui veut imposer après 2 reports des élections présidentielles au mois de décembre.
Le 12 décembre.
Et les manifestants qui disent ces élections ne seront pas transparentes. C'est une manipulation et on les refuse. Mais les ressorts sont, c'est probablement un peu rustique ce que je vais dire, mais il me semble que les ressorts sont les mêmes. Ces 3 pays ont été traumatisés par des guerres. Soit civil, soit extérieur. Civil, évidemment, au Liban pendant 15 ans, en Algérie pendant les années 90, je ne parle même pas de la guerre coloniale ou d'indépendance, et les 2 guerres irakiennes prolongées par une sorte de guerre civile larvée, en réalité. Bon, ces 3 pays sont également dans des situations économiques et sociales désastreuses, on l'a dit, calamiteuses. Dans ces 3 pays... Ce que disent les manifestants, c'est que le pouvoir est confisqué. Ils emploient le même mot par des mafias au pouvoir. Et enfin, et je crois que c'est le point essentiel que soulevait Thomas Gomard, ces révoltes ne se transforment pas en révolution. Parce que, faute de leader, faute de projet, c'est une sorte de dégagisme sans débouché. Ce qui rend la suite extrêmement incertaine dans les 3 situations. Avec leurs différences évidentes. Et on ne peut pas ne pas songer, enfin, malheureusement, hein, on peut saluer cette aspiration démocratique, ces aspirations démocratiques, mais on ne peut pas ne pas songer à ce qui s'est passé dans des situations comparables il y a 8 ans, en Syrie, en Libye, en Égypte. L'exception est évidemment fragile, l'exception tunisienne, mais dans les 3 autres cas, 2 guerres civiles désastreuses et le remplacement d'une dictature par une autre. Ce qui ne rend pas extraordinairement optimiste, je l'avoue.
Alors peut-être sur ce parallélisme intéressant en effet que établit à l'instant Gérard Courtois entre la situation algérienne et la situation libanaise, est-ce qu'il n'y a pas quand même, me semble-t-il, une différence de taille qui est en effet le poids des ingérences étrangères? Alors on fait facilement le parallélisme entre le Liban et l'Irak parce qu'il y a bon an mal an la même ingérence iranienne et le même poids du chiisme et des milices chiites, spécialement en Irak. Thomas Gomard, quel est en effet le pont qu'on peut établir entre ces 2 situations politiques-là?
Ah, et un pont qu'on peut établir qui est la responsabilité française historique. C'est-à-dire que si je repars de mon idée tout à l'heure là, des différentes droites, on a eu au Liban et en Syrie en 41 un des derniers affrontements entre Français. Entre vichistes d'un côté et gaullistes soutenus par les Anglais de l'autre. Donc là aussi, on a des phénomènes, à mon avis, de répliques historiques intéressants à avoir à l'esprit quand on commente, quand on analyse les événements. Et quant à l'Algérie, je le disais tout à l'heure, c'est quand même au cœur de la fondation de notre cinquième République. Donc ça, c'est le premier point que je serais tenté de faire. Ce qui est en revanche très très différent, c'est l'organisation politico-économique en fait des 2 systèmes. Dans le cas de l'Algérie, on a fondamentalement un système qui repose sur les relations civilo-militaires. C'est-à-dire que ce sont les militaires qui se sont accaparés la rente énergétique et qui ensuite le font plus ou moins ruisseler, pour reprendre le terme précédemment utilisé, mais qui tiennent en fait l'ensemble du pays avec un président en l'espèce Bouteflika qui avait été comme ça prolongé comme on le sait. Et ce qui est très frappant, c'est le calme. Pour le coup, moi, je suis très frappé par ça, du peuple algérien qui revient toutes les semaines, en dépit des intimidations, des arrestations, etc., pour essayer de faire évoluer les choses. Et donc, je finirai là-dessus. On est aussi dans 2 cas de figure, à mon avis, avec des analogies, mais des différences assez fondamentales sur les ingérences extérieures, parce que les ingérences extérieures sur le Liban, on en a parlé, il y a l'Iran, il y a aussi Israël, enfin, on pourrait multiplier. C'est moins le cas en Algérie. Au fond,
l'autonomie politique plus importante.
Et ce qui s'explique aussi par la manière dont l'Algérie s'était mis en avant du tiers-mondisme dans les années 70. Peut-être que la relation aujourd'hui qu'on ne voit pas, mais qui est assez intéressante à observer, comme c'est la relation avec la Russie, qui passe notamment par la coopération militaire et énergétique.
Notamment sur le gaz. Christine Ancrent.
Je crois qu'il y a une différence majeure entre la situation algérienne et le Liban. C'est le rôle de l'armée. L'Algérie est tenue par l'armée. C'est contre l'armée, ou en tout cas contre cette élite autoproclamée d'une armée qui continue de se revendiquer de la guerre d'indépendance. Il était intéressant d'ailleurs que dans les manifestations de ces derniers jours, les jeunes manifestants eux-mêmes, puisque le 1er novembre est la date anniversaire de l'indépendance algérienne, se revendiquaient de cette guerre d'indépendance, qui à mon avis n'est toujours pas suffisamment enseignée, soit dit en passant, dans nos manuels scolaires. Cela étant dit, au Liban, c'est exactement l'inverse. L'armée est, pour le moment en tout cas, à peu près le seul pilier du système qui reste populaire dans la rue, qui n'est pas intervenu. Ce sont des gros bras du Hezbollah et de Nabi Berri, donc le patron du Parlement, qui est l'autre puissance chiite au Liban, qui ont mis à mal les tentes des manifestants au centre de Beyrouth il y a quelques jours. Donc l'armée reste au contraire, pour la rue libanaise aujourd'hui, semble-t-il, la seule représentation d'unité nationale dont il dispose aujourd'hui. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement Saad Hariri, dont l'habileté n'a pas toujours été évidente, a cette fois, pour sa propre survie politique, sans doute très bien joué en démissionnant contre l'avis des autres partenaires du système, parce que il reste évidemment aux affaires courantes, comme on dit, mais il est très vraisemblable qu'il sera, lui, à la tête d'un prochain gouvernement d'experts, entre guillemets, et de technocrates, que la rue réclame. Ce qui est un autre paradoxe, me semble-t-il, de la situation
libanaise. Peut-être que le mot technocrate ne se comprend pas de la même façon au Liban et en France, et sans doute de façon moins péjorative. Il était peut-être intéressant de le souligner. Merci beaucoup à tous les quatre. Quelques rapides conseils de lecture pour aller plus loin. Thomas Gomard.
Oui, alors moi je voudrais vous recommander, dans le prolongement un peu de la discussion, Pierre-Jean Luisard, La République et l'Islam, aux racines d'un malentendu, chez Talendier en 2019.
Gérard Courtois.
Moi je veux m'échapper un peu. Le dernier livre de Cyrus Dvet, une sorte de Scheherazade new-yorkaise absolument brillantissime.
Il sera plaisant de s'évader, en effet. Emmanuel Cervera-Marzal.
Aux éditions de La Découverte, l'esprit démocratique du populisme du sociologue Federico Tarragoni, pour montrer comment derrière la critique du populisme se cache souvent la haine de la démocratie.
Christine O'Krent.
Le moment illibéral d'Izvan Krastev et Stephen Holmes, c'est chez Fayard. Je viens de le commencer, donc je l'avoue que je n'ai pas complètement fini et lu.
Et bien voilà des bibliographies.
Mais Krastev est toujours excellent.
Très complémentaire. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vanessa Nadjar, et à la technique, Yanis Djoudad. Merci à tous les deux. Tout de suite, on va retrouver Caroline Brouet pour Les Bonnes Choses, un déjeuner avec deux carnassiers invétérés, Hugo Desnoyers et Jacques Weber. Hugo Desnoyers, le boucher star. Et puis à 12h45, signe des temps, Marc Weitzman est resté, lui, dans l'ambiance Halloween et s'intéressera aux sorcières. Quant à nous, je veux absolument vous dire qu'il faut que nous nous retrouvions dimanche prochain, puisque l'Esprit Public sera en direct et en public du Théâtre de l'Odéon. Pour ceux qui pourraient être parisiens ce jour-là, nous analyserons l'actualité avec Hubert Védrine, Brice Couturier, Aurélie Filippetti et Plantu. Il reste encore des places, alors réservez vite au 01 44 85 40 40. 44 85 40 40. Vous pourrez poser vos questions à nos invités et regarder Plantu dessiner le monde, ce qui est toujours un grand bonheur. Quelle joie par avance donc de vous retrouver, de vous rencontrer dimanche prochain, 11h. D'ici là, passez une excellente semaine à l'écoute de France Culture.